Il me disait, c'est quand même bizarre, vous les filles, vous avez beaucoup de mal à trouver votre place dans le sport de haut niveau, parce qu'avant de faire une médaille internationale, vous ne vous considérerez pas comme légitime.
Championne du monde
40-0.
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! 2024, nous voilà! Une année que les amateurs de sport attendaient impatiemment, une année où nos sportifs et sportives vont tenir le haut de l'affiche et où les émotions vont mettre notre cœur à rude épreuve. Perso, je n'attends que ça. Et pour bien commencer l'année, on vous a écouté puisque vous nous avez demandé plus d'entretiens avec des athlètes paralympiques. Et c'est chose faite avec ce nouvel épisode où la parakayakiste Nelia Barbosa m'a accordé un moment à l'INSEP entre deux séances d'entraînement. J'ai compris en échangeant avec elle à quel point le sport peut être fondateur et fondamental, particulièrement dans les moments plus difficiles de la vie, comme ce fut le cas lors de son amputation alors qu'elle avait à peine 19 ans. Le kayak l'a portée, au sens propre comme au figuré, et lui a fait comprendre qu'elle aussi, elle pouvait devenir athlète de haut niveau, malgré son handicap. Comme souvent, c'est son entourage qui a d'abord cru en son potentiel avant qu'elle se rende compte elle-même de ses capacités. Nelia est aujourd'hui vice-championne paralympique de paracanoë et met tout en œuvre pour gravir la grande marche restante dans quelques mois. Cet épisode, c'est une plongée instructive et lucide sur le monde du parasport et tous ses enjeux, mais c'est surtout le parcours d'une jeune femme qui avance par amour du sport. Salut Nelia.
Salut.
Comment ça va?
Bah ça va super, et toi?
Eh bah écoute, moi ça va toujours. Premier enregistrement de 2024.
Exactement, tout premier.
Tout premier. Premier épisode de cette année qui va être très légèrement chargé.
Très légèrement, une légère différence. Je sais pas ce qui se passe cette année, mais on m'a dit que c'était un peu particulier.
Un peu particulier, effectivement. C'est vrai qu'on en discutait un tout petit peu avant. Tu disais que là, tu avais un emploi du temps très chargé.
Ouais.
Déjà, bah, sur cette année, déjà, ça a commencé l'année dernière, hein, disons
ouais.
Les choses.
Ouais, ouais.
Gros programme d'entraînement, plus sollicitations médias comme aujourd'hui, pour le coup.
Exactement. Alors, évidemment, il y a l'aspect sportif où il faut qu'on s'entraîne tous les jours, il faut qu'on soit en stage, il y a les compétitions. Et puis, il y a aussi l'aspect médiatique, donc on ne va absolument pas se plaindre. Et au contraire, c'est quelque chose qu'on a cherché pendant longtemps. Et maintenant, on est en plein dedans, donc on y va à fond, quoi.
Bah, j'ai envie de dire, dernière ligne droite, là, tant
c'est
qu'à
clair,
faire.
C'est clair, c'est ça.
Allons-y gaiement. Alors, Nelia, pour rentrer dans le vif du sujet, je suis déjà très contente de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci.
D'avoir accepté. Donc toi, tu pratiques une discipline qui est le paracanoë.
Exactement.
Alors, on va détailler un peu plus parce que la discipline, c'est le paracanoë, mais toi, tu fais du kayak.
C'est ça, c'est ça.
Je crois que des fois, les gens comprennent pas trop pourquoi dans paracanoë, toi, tu fais du kayak.
Ouais.
En fait, il y a plusieurs disciplines.
C'est ça.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail?
Ouais, alors on me pose souvent la question. Souvent, les gens disent « Ouais, elle dit qu'elle fait du paracanoë, mais elle fait du kayak. » Alors oui, le nom de la discipline, c'est paracanoë, mais moi, je pratique le kayak. Et donc, il y a deux sous-disciplines. Le kayak, donc ce que je fais, et la pirogue, donc que la discipline paralympique du canoë qui se fait avec une pagaie simple.
Ça, c'est du kayak sprint.
C'est ça.
Donc, c'est course en ligne.
C'est course en ligne sur 200 mètres. Donc, c'est très rapide. Ça dure moins de 50 secondes. Donc, moi, j'ai un record à peu près en moins de 46 secondes. Donc, il n'y a pas le droit à l'erreur, quoi. Si on part et il ne faut pas se tromper de coup de pagaie, quoi.
Et on donne tout.
Et on donne tout. C'est exactement ça.
46 secondes, effectivement, ça passe en...
En un claquement de doigts. Et d'un autre côté, c'est très long. Ouais. Quand on arrive au bout de 40 secondes, qu'on a les bras qui commencent à charger, qu'on commence à avoir la vision qui devient un petit peu trouble, qu'on voit la ligne d'arrivée qui se rapproche mais pas assez vite, on se dit que quand même c'est un peu long.
C'est
trop long.
Alors toi, pour le coup, donc on parlait, on fait un peu des blagues, mais des Jeux olympiques et paralympiques
ouais.
de Paris. Toi, tu les connais déjà un petit peu, les Jeux olympiques et paralympiques.
Ouais.
Tu as fait une médaille d'argent.
C'est ça, à Tokyo.
Aux Jeux de Tokyo. Bon, pour revenir à la genèse quand même, parce que remettons les choses dans l'ordre.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivée au kayak?
Alors, je suis arrivée au kayak un peu par hasard. C'est vrai que le kayak, c'est un sport assez familial. En général, on entend des grands noms comme les Prigent, comme les Delassus, qui toute la famille pratique. Moi, j'ai découvert ça en colonie de vacances. Donc, j'avais fait plein de sports nautiques pendant ce colo. Et puis, j'ai découvert le kayak un peu par hasard. Et vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Donc, j'étais déjà porteuse de handicap à l'époque. Et pour moi, sport, ça rimait avec courir. Donc, il était impossible que je fasse du sport. Donc, à l'époque, je faisais du violon. Pour moi, la musique, c'était mon sport. Et je courais avec mes cordes. Et puis, je découvre le kayak et je me dis, mais en fait, c'est un sport que j'aime beaucoup. Et en plus, c'est un sport que je peux pratiquer. Et en fait, c'est un sport qu'on peut pratiquer même en région parisienne, parce qu'on a des rivières partout en France, et des clubs partout en France. Et je suis arrivée dans ce club avec aucune optique de faire de la compétition, de faire du haut niveau, mais vraiment juste être dans la nature, hein, parce que j'avais un besoin mais viscéral d'être en contact avec l'extérieur, avec la nature. Je supportais pas d'être enfermée. Et quand on a 12 ans, on se lève le matin, on va au collège, on est enfermé dans une salle jusqu'à 17h, et puis ensuite on rentre à la maison, on fait les devoirs. Et c'est un mode de vie qui m'allait pas trop. Et puis, je découvre le kayak, en fait, où tous les soirs, on est sur la Marne, qui pleuve, qui neige, ou même en plein été, quand il fait super beau, super chaud, et ça, c'est génial. Et en fait, je me suis dit, c'est mon sport, et que je fasse de la compétition ou pas, en fait, c'est ce que je veux faire tous les jours de ma vie.
Tu as voulu t'inscrire, donc tu dis, tu as découvert ça un peu par hasard en testant plein de sports différents.
Ouais.
Et c'est toi, après, qui as demandé à t'inscrire dans un club.
Ouais, exactement. Je suis rentrée chez moi après cette colo et j'ai dit à ma mère, il faut que je fasse soit du kayak, soit de la voile. Parce qu'en fait, les deux m'avaient beaucoup plu. Mm-hmm. Et ma meilleure amie de l'époque m'a dit, fais surtout pas de la voile parce que les moniteurs, ils sont trop méchants dans le club où tu veux aller. Et donc, moi, j'avais 12 ans, j'avais pas envie de me faire gronder quand j'allais au sport, donc hors de question de faire de la voile. Et donc, j'ai découvert le kayak au club de Champigny. Et en fait, j'ai été hyper bien accueillie dès le début, quoi. Enfin, donc je leur ai dit, j'ai un petit handicap, je peux pas courir, j'ai du mal à marcher. Pour déplacer des charges lourdes, c'est compliqué, donc je pourrais pas porter mon kayak. On m'a dit, c'est pas grave, hein, t'as tes bras, tu peux utiliser tes bras. Bah ouais. Bon, dans ce cas-là, y a pas de problème. Et en fait, j'ai été hyper bien accueillie. Et en fait, comme tous les gamins, j'ai été autant charriée que les gamins, mais pas parce que j'étais porteuse handicap, parce que en fait, on se taquine tous. Comme une grande famille, comme des frères et sœurs. Et c'est ce qui m'a vachement plu aussi.
T'avais quel âge à ce moment-là ?
J'avais 12 ans.
J'avais 12 ans. Donc toi, par rapport à ton handicap, effectivement, donc on n'en a pas parlé, donc à 15 mois, on te diagnostique une, je ne vais pas dire de bêtises, neurofibromatose.
Exactement.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Ouais. Alors la neurofibromatose de type 1, elle se traduit très différemment en fonction des individus. Les caractéristiques principales qu'on diagnostique un enfant, c'est les taches café au lait. Donc, ma mère a vu ces taches, elle s'est dit, tiens. Et puis, en fait, la pédiatre connaissait très bien la maladie, elle a dit, ça, c'est une neurofibromatose. Donc, j'habite à Lisbonne à l'époque, donc le suivi était moins OP que ce qu'il y a en France. Donc, on nous a envoyés à Paris, puis à Paris, on a eu une super prise en charge à l'hôpital Necker. Et en fait, assez rapidement, on a vu les premières apparitions aussi d'autres symptômes, avec des apparitions de petites tumeurs bénignes un peu partout sur le corps et une plus importante au niveau de la cheville, qui a évolué tout au long de ma croissance jusqu'à apporter une déformation assez importante, m'empêchant les derniers mois avant l'amputation et de marcher, de courir, de me chausser correctement, puis ensuite déclenchant des douleurs quand même assez importantes. Dans mon malheur, entre guillemets, j'ai beaucoup de chance parce que ça touche ma cheville, ça reste discret, on vit très très bien avec une amputation. Ça aurait pu être mon bras, ça aurait pu être mon visage, ça aurait pu toucher n'importe quelle partie du corps quand même plus vitale. Donc je m'estime quand même relativement chanceuse.
Donc tu te fais amputer à 18 ans ?
Alors c'était un mois après mes 18 ans, un mois après mes 19 ans, pardon. Donc je venais d'avoir 19 ans.
Ouais.
Donc j'ai eu l'annonce en fait à l'âge de 18 ans, où en fait j'ai eu une luxation de la cheville parce que mes tendons ne tenaient plus rien. Donc je vais chez l'ortho pour qu'il m'opère en fait, juste d'une luxation. Et en fait le verdict a été assez direct. Il m'a dit en fait là on ampute. Donc l'annonce a été hyper violente, hyper brutale, parce que je m'y attendais pas du tout. Après, j'ai adopté aussi une politique de l'autruche, où c'était évident qu'il fallait qu'on ampute, mais je me suis dit avec la médecine, avec la science, on peut tout faire. Évidemment qu'il va me réparer, évidemment qu'après je vais retourner en chirplastie et que je vais avoir un beau pied et on n'en reparlera plus. Et puis je me referai opérer peut-être dans 5 ans quand ce sera revenu. Puis il m'a dit, non, mais là, on ampute. Enfin, là, ça, tu vivras mais mille fois mieux avec une prothèse qu'avec le pied que t'as là. Enfin, t'es jeune, t'as 19 ans. Enfin, tu vas récupérer super rapidement. Tu vas porter des chaussures comme toutes les ados ou les jeunes adultes de ton âge. Et en fait, enfin, tu vas vivre super bien avec une prothèse. Donc, l'annonce au départ, il était hors de question qu'on touche à mon pied parce que je me suis construite aussi sur cette malformation parce que ça m'a bâti une forme de résilience. Et pour moi, voilà, l'amputation, c'était un échec, c'était une forme d'échec. Et puis finalement, j'ai fait ce qu'il faut surtout pas faire, c'est-à-dire que je suis allée voir personne amputée sur Google.
Ah.
Et je suis tombée sur Marie-Amélie Le Fur. Ouais. Et là, je me suis dit, mais en fait, cette nana, elle est géniale parce que, en fait, elle ne se définit pas par son handicap et elle bâtit en fait toute sa vie par-dessus, mais c'est pas ce qui la définit. Et puis en plus, voilà, enfin, elle est médaillée paralympique, elle vit de son sport. Et moi, j'ai envie de vivre comme ça, quoi. Ça va être une page qui se tourne et je vais me construire sur la nouvelle Nelia avec sa jambe de robot. Et donc assez rapidement, j'ai rencontré des personnes amputées qui m'ont dit, mais en fait, moi, j'ai eu un accident de voiture il y a 10 ans, et si j'avais su que je vivrais aussi bien, mais je l'aurais fait 10 ans avant, quoi.
D'accord.
Et donc, là, je me suis dit, bon, bah, ok. Donc, je suis retournée voir le chier, et je lui ai dit, c'est bon, je suis prête. Il m'a dit, ok, on fait ça quand? Et en fait, ça m'a vachement surpris, parce que je l'ai trouvé beaucoup plus humain que la première fois, beaucoup plus attentif. Vraiment, il m'a même demandé de choisir ma date d'amputation, et donc ça s'est fait le 6 novembre.
C'est vrai que c'est un processus qui doit être assez compliqué.
Ouais.
Surtout que quand on s'imagine pas forcément se faire amputer. Et le mot amputation, je trouve, est très,
très
dur.
Très grosse violence. Le mot amputation est une très grosse violence parce qu'on l'assimile à la guerre ou à un accident grave. Parce que c'est vrai que la plupart des gens qui se font amputer, c'est soit de maladies comme le diabète, soit d'accidents, donc justement chez les jeunes patients. Mais on pense pas du tout à se faire amputer quand on a 19 ans, quoi.
Bien sûr.
Et en fait, finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent avec une prothèse et on ne le remarque même pas parce que sous un pantalon, ça ne se voit pas, parce qu'on marche très bien avec une prothèse et aujourd'hui, on fait des choses formidables. Puis en plus, on a la chance d'avoir un système de santé en France qui nous permet de pouvoir nous appareiller quand même correctement. On peut toujours faire mieux, mais en tout cas, ça nous permet quand même de pouvoir nous appareiller correctement sans trop se poser de questions.
Et finalement, les recherches Internet qu'on ne conseille pas trop de faire, hein, en temps
ouais,
normal.
On déconseille, mais là, pour le coup,
ça a été plutôt positif.
Ça a été très positif, ouais.
Marie-Amélie Le Fur, effectivement, qui a un parcours extraordinaire, multimédaillée olympique, présidente du comité paralympique maintenant.
C'est ça.
Donc, un parcours brillant et une femme incroyable.
Exactement, une grande femme.
Une grande femme, exactement. Et toi, donc, d'un point de vue alors sportif et personnel, parce que je veux dire, les deux sont forcément aussi peut-être indissociables. Comment ça s'est passé, ce processus-là, après ton amputation ?
Alors, après l'amputation, j'avais envie de retourner au kayak le plus rapidement possible. En général, après une amputation, il y a le médecin rééducateur qui pose une question, c'est quels sont tes objectifs ? En général, une personne qui se fait amputer, l'objectif, c'est de remarcher et de rentrer chez soi. Moi, l'objectif, marcher, c'était très secondaire. L'objectif, c'était vraiment de reprendre le kayak le plus rapidement possible. Donc, elle a été un peu surprise, mais elle s'est dit, ok, pourquoi pas. Il y avait une toute petite piscine au centre de rééducation, mais vraiment minuscule, quoi, une flaque d'eau. Et elle m'a dit, écoute, tu vas appeler ton entraîneur et tu vas lui dire d'emmener ton bateau une fois que tu seras cicatrisé. Donc, au départ, j'ai pris ça pour une blague. Et finalement, quelques semaines après, mon petit bateau rose était dans la petite piscine au centre de rééducation de Valenton. Donc, ça en a surpris plus d'un de voir un kayak dans la piscine. Mais en fait, moi, ça m'a fait trop du bien de reprendre les sensations, de retrouver un petit peu mon équilibre avec donc un petit bout de jambe en moins. Et je me suis dit, jamais de ma vie, j'arrête le kayak, quoi, même avec un bras en moins, je pense.
Parce qu'avant ton amputation, le kayak, c'était quelque chose que tu projetais comme une volonté d'en faire de façon professionnelle ou c'était vraiment un loisir ?
Non, pas du tout. Alors, je faisais de la compétition. J'aimais déjà beaucoup la compétition, mais jamais je me suis considérée comme athlète. Parce que pour moi, athlète, c'est Marie-Amélie Le Fur, c'est Tony Estanguet, mais c'est pas Nelia Barbosa. Et il y a surtout une chose qui m'angoissait énormément. C'est que je me disais, mais en fait, je vais passer mon bac. Et après mon bac, si ça se trouve, je vais devoir déménager pour les études. Je vais devoir me consacrer à 100% pour mes études. Et ma plus grande angoisse, c'était vraiment d'arrêter le kayak. Ouais. Il était hors de question que j'arrête le kayak. Et donc, en fait, j'avais envie que le kayak rentre dans ma vie d'une façon ou d'une autre. Mais j'ai jamais pensé un jour devenir une grande athlète, comme on dit.
Est-ce que c'est ton amputation, justement, qui t'a fait changer un peu de regard ?
Alors, c'est pas vraiment mon amputation, parce qu'en fait, assez rapidement après l'amputation, donc j'ai rencontré notamment ma médecin rééducateur qui me suivait à l'époque et qui continue de me suivre un petit peu aujourd'hui, qui me disait, mais en fait, faut absolument que tu tentes les Jeux paralympiques, enfin, tu fais du sport depuis, enfin, t'es douée en sport, tu fais du bateau depuis que t'es petite, en fait, on recherche des profils comme toi, sur la relève et pour les Jeux de Paris 2024, il faut absolument que tu tentes, quoi. Et moi je lui disais mais enfin tu te rends pas compte, enfin moi je suis pas une athlète, moi je suis sportive mais je suis pas une athlète. Et donc au départ je voulais pas en entendre parler parce que pour moi ben un athlète c'est un très grand sportif, c'est quelqu'un qui fait ça mais tous les jours et puis qui a un talent inné et je me définissais absolument pas comme ça. Mais par contre j'avais vraiment ce besoin viscéral de faire du sport tous les jours parce que ça me faisait un bien fou. Et finalement, un jour, j'ai encadré un groupe de jeunes, donc c'était leur première année de bateau, sur un bassin un été à Saint-Pierre-de-Beuf, c'est à côté de Lyon, et je rencontre donc ces deux athlètes, donc Sylvain Curinier, qui est un ancien athlète qui ensuite est devenu entraîneur national en slalom, et Émilie Fer, pareil, ancienne athlète, médaillée d'or aux Jeux Olympiques, et qui me disent... Mais en fait, tu te débrouilles super bien en slalom. Tu sais qu'on recherche des athlètes qui sont amputés pour les Jeux de Paris. Est-ce que ça te tenterait ? Et donc là, je me dis, bon, quand même, Émilie Fer, je la regardais à la télé, c'est mon idole. Je n'osais même pas lui dire bonjour tellement elle m'intimidait. Et là, elle est en train de me dire qu'il faut absolument que je tente les Jeux parce que c'est une expérience absolument formidable et que même si voilà, même s'il se passe rien, même si je m'arrête à des championnats d'Europe, ce sera déjà une expérience mais unique, parce qu'en fait combien de personnes sur Terre ont la chance ou ont l'opportunité de participer juste à un championnat d'Europe. Et donc je me suis dit bon, je vais tenter, je vais leur faire plaisir, je vais tenter, mais par contre je leur promets rien. Et finalement bah voilà, ça s'est fait petit à petit et je suis arrivée pas par hasard mais presque juste en faisant les bonnes rencontres au bon moment. Et c'est vraiment... aujourd'hui, j'en suis hyper reconnaissante et envers Sylvain et Émilie, mais aussi envers mon médecin qui m'a dit bah, voilà, qu'il fallait y aller, qu'il fallait foncer. Et envers toute l'équipe médicale aussi qui m'a accompagnée tout au long de mon processus, mais depuis que je suis en pédiatrie, depuis que j'ai 2 ans. Et puis évidemment, envers le staff qui me suit au quotidien sur mon entraînement.
Ça a été l'élan des autres.
C'est exactement ça. C'est exactement ça, et c'est pour ça que je pense que pour être un champion, on peut pas le devenir tout seul, quoi. C'est impossible. On peut être très fort tout seul, mais on peut pas déplacer des montagnes tout seul. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de m'encadrer des bonnes personnes, m'entourer des bonnes personnes, parce que j'ai envie d'être portée et d'être poussée. Et d'ailleurs, après ma médaille à Tokyo, j'ai félicité mon entraîneur parce qu'en fait. Cette médaille, oui, c'est moi qui étais sur la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Mais derrière moi, il y avait aussi tout un staff qui m'a accompagnée, qui m'a poussée. Et donc, pour moi, ils sont autant méritants que moi.
C'était il n'y a pas si longtemps que tu as décidé finalement de te mettre dans le projet paralympique à 100%. C'était quoi, il y a 5 ans?
C'est ça, c'est exactement ça. C'était il y a 5 ans. Et encore, même il y a 5 ans, avant de faire le quota pour les Jeux de Tokyo, j'y croyais pas. Et à partir du moment où j'ai vu les quotas de Tokyo, je me suis dit, bah, en fait, ça y est, je suis une athlète, quoi. Je suis une athlète et non seulement j'ai le droit de rêver de participer aux Jeux, mais en plus, j'ai le droit aussi de rêver de faire une médaille.
C'est le fait de te qualifier pour les Jeux Olympiques qui a légitimé ton statut d'athlète de haut niveau ?
Ouais. Alors, c'est un peu bizarre à dire, mais mon ancien entraîneur me disait ça souvent. Il me disait, c'est quand même bizarre, vous, les filles... vous avez beaucoup de mal à trouver votre place dans le sport de haut niveau parce que avant de faire une médaille internationale, vous vous considérez pas comme légitime. Et en fait, ouais, j'ai fait tilt. Je me suis dit en fait, les gars de l'équipe, ils rentrent en équipe, c'est des athlètes et ils sont légitimes. Et ils se disent, je vais faire les championnats d'Europe, les championnats du monde, je vais faire les Jeux et je serai médaillé. Alors que moi, en arrivant sur les championnats d'Europe, c'était je vais participer aux championnats d'Europe, je vais me prendre une raclée, mais j'aurais pris une expérience de dingue, quoi. Et finalement, j'ai fait 2e et je suis tombée mais de 1000 mètres de haut parce que je m'attendais pas du tout à faire une médaille sur mes premiers championnats d'Europe. Et non seulement je m'y attendais pas, mais je m'étais pas préparée, quoi. Donc, je m'étais beaucoup entraînée, mais à aucun moment, je me suis dit, je vais être médaillée sur ces championnats d'Europe.
C'est fou.
Ouais, c'est fou. Maintenant, j'ai un petit peu changé quand même parce que on devient un peu addict une fois qu'on fait sa première médaille internationale. Et ouais, alors, je vais pas considérer le sport comme une drogue parce que le terme drogue est hyper violent et pas forcément très très il est un peu péjoratif quand même pour le sport, mais ouais, j'ai besoin de ça, et quand on fait des médailles, après on a envie d'en faire mais plein, et puis surtout quand on est abonné aux médailles d'argent, on a envie aussi de toucher un petit peu à l'or, et aujourd'hui ouais, c'est un peu ce que je recherche.
On y reviendra après forcément aussi un peu sur cette évolution là. Pour revenir aussi, c'est hyper intéressant ce que tu dis, où c'est les gens autour de toi, ton encadrement, ton entourage qui t'a poussé à essayer la compétition et à te lancer dans le paralympisme. Comment s'est faite cette adaptation ? Parce que entre le kayak traditionnel et ouais. le paracanoë, il y a une différence aussi.
Ouais.
Est-ce qu'il y avait des structures qui pouvaient t'accueillir ? Comment ça s'est passé tout ça ?
Alors, la transition a été assez naturelle, on va dire, parce que je suis dans un club qui est multidisciplinaire et j'ai un entraîneur qui est hyper, hyper investi, un entraîneur de club. Et donc, dès qu'on a commencé à parler du projet paracanoë, il m'a dit, bah, écoute, si c'est ce que tu as envie de faire, je vais t'accompagner. Et c'est quelqu'un qui, si mon objectif, c'est de gagner les championnats du monde, il va m'accompagner autant que si je lui dis mon objectif, c'est d'être championne de France. Voilà, petit à petit. Donc, au départ, je faisais des entraînements avec les autres jeunes du club, donc en slalom. Donc, le slalom, c'est la même discipline que Tony Estanguet. Mmh. Et puis, de temps en temps, le midi, je venais au club pour faire de la course en ligne, donc la discipline du paracanoë, avec Benoît Chantry, mon entraîneur de club, qui me donnait voilà des tips, parce que c'est aussi quelqu'un d'extrêmement curieux. Si je lui dis que mon objectif c'est de faire du curling, il va se renseigner sur le curling jusqu'à être un maître du curling et me donner le plus de conseils possibles et les conseils les plus pertinents possibles. Et donc voilà, j'ai fait aussi beaucoup de recherches, j'ai regardé énormément de vidéos, j'ai pris aussi énormément de retours d'expérience et d'entraîneurs et d'athlètes. Et j'ai regardé aussi un peu ce qui se fait dans l'étranger, sur comment naviguer les autres. Parce qu'en fait, chaque nation a un peu sa technique et c'est assez caractéristique de chaque nation. Donc, je trouve ça assez marrant. Et oui, c'est ça, en fait, c'est être hyper curieux. Et du coup, en fait, naturellement, ça s'est fait progressivement, où je suis arrivée au paracanoë, donc dans un bateau qui est très différent, une pagaie aussi qui est très différente, parce que je suis passée d'une pagaie pour faire de l'eau vive à peau, à une pagaie avec des pelles creuses, ce qu'on appelle, donc qui ressemble un peu à des cuillères, pour de l'eau plate sur du lac, donc c'est très différent, il a fallu s'adapter techniquement. Et d'un autre côté, j'avais surtout pas envie de lâcher le slalom, parce que c'est aussi mon essence, c'est de là que je viens, et moi je fais du kayak parce que j'aime la compétition, mais surtout parce que j'adore le kayak. Et Sylvain m'a dit, il y a un truc qu'il ne faut surtout pas que tu oublies, c'est d'où tu viens et pourquoi tu fais du kayak. Il m'a dit, voilà, il ne faut pas que tu oublies que tu fais du kayak parce que tu es passionné. Donc, il faut que tu gardes cet esprit-là et il faut que tu continues de pratiquer du slalom avec les valides, à faire de la compète avec les valides, mais aussi à faire du paracanoë parce que tu aimes ça.
Mais donc, du coup, tu as commencé avec les valides.
C'est ça.
Tu étais la seule personne en situation de handicap dans le groupe
Ouais. Ouais, ouais. Dans le groupe, j'étais la seule personne en situation de handicap. Puis même sur les compétitions nationales, sur les championnats de France, sur les championnats nationaux, j'étais la seule personne en situation de handicap. Et d'ailleurs, j'avais surtout pas envie qu'on me dise « c'est pas mal, Nélia, ce qu'elle fait, malgré son handicap ». J'avais juste envie qu'on me dise « c'est pas mal, ce qu'elle fait, Nélia ». Et plusieurs fois, j'ai corrigé certaines personnes en disant « non, c'est pas mal ce que je fais, malgré mon handicap. C'est pas mal ce que je fais, point ».
Tout court. Au niveau du matériel, ouais. Est-ce qu'il y a des adaptations à faire ? Est-ce que c'est différent du matériel des valides ? Est-ce que là-dessus, il y a dû avoir des petites spécificités ?
Ouais. Alors, le bateau est un petit peu différent. Il est un petit peu plus large que le bateau des valides. Donc, il freine un petit peu plus. Donc, il a fallu que j'achète un bateau. D'ailleurs, j'ai été aidée, je ne l'ai pas acheté. C'est la région et le club qui l'ont acheté. Pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir après arriver en compète avec le bateau adapté au paracanoë. Et après, il a fallu aussi que j'adapte ma prothèse pour qu'elle soit aqua compatible et qu'elle puisse reproduire le plus fidèlement possible le mouvement que j'ai sur ma jambe valide.
D'accord. Donc, au niveau... Parce qu'on ne se rend pas trop compte des mouvements que tu dois faire aussi dans ton kayak.
Ouais.
Le positionnement des jambes, des genoux, etc. est important.
C'est hyper important. Donc souvent, on me dit, mais le kayak, t'as pas besoin des jambes, c'est juste les bras. Alors, le kayak, c'est un sport hyper complet. Donc, on a besoin des jambes, des abdos, des bras, des épaules, de partout. Et donc, c'est hyper important d'avoir une super coordination et donc de pouvoir utiliser sa jambe droite aussi bien que sa jambe gauche. Et donc, c'est pour ça aussi que, par exemple, en musculation, je fais beaucoup d'exercices aussi sur le bas du corps parce qu'il est important que ma jambe amputée travaille autant que ma jambe valide.
Et ça, le matériel, ça a un impact vraiment sur la performance ?
Alors, dans un premier temps, non. Moi, quand j'ai commencé le kayak, j'avais un bateau tout pourri, qui avait été cassé plein de fois, avec du scotch de partout. Et pareil, quand j'ai commencé le paracanoë, j'avais un bateau qui n'était pas très performant, parce que, en fait, il est hyper important de développer sa technique et son physique. Et ensuite, une fois que techniquement, on est plutôt bien, et que physiquement, on commence à avoir des choses intéressantes, on peut passer sur du matériel beaucoup plus performant. Ce serait comme acheter une Ferrari juste après avoir son permis. C'est dommage, on va dire. C'est pas très utile. Mais bon, il y en a qui le font. Mais moi, en tout cas, dans ma politique sportive, il est important d'être d'abord bon techniquement, de comprendre comment fonctionne le bateau et la pagaie, et après de passer sur du matériel un peu plus performant.
Donc, c'est vrai que quand on t'écoute, on sent que ton entrée dans le sport de haut niveau, il a pu être fait parce que t'as été accompagnée aussi.
C'est exactement ça. J'ai été super bien accompagnée. Et en fait, j'ai un club qui peut ressembler presque à une structure pôle, comme on peut retrouver dans certains.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dans certains pôles en France, parce que j'ai un entraîneur qui est là tous les soirs, parce qu'on a une salle de muscu à disposition dans le club, qu'on a des bateaux, les jeunes, quand ils commencent le bateau, ils ne sont pas obligés d'acheter tout de suite un kayak parce que c'est quand même un certain investissement. Ils peuvent profiter du matériel qui est mis à disposition par le club et ensuite, quand ils grandissent, il faut investir dans un kayak pour pouvoir aller chercher de la performance. Mais on n'est pas un club... je veux dire, où il y a une séance par semaine et on vient quand on peut. Ils sont vraiment hyper investis. Et j'ai un entraîneur qui est surinvesti. Ouais.
T'as déjà rencontré d'autres personnes qui, justement, eux, n'ont pas eu cette chance-là. C'est vrai que j'ai eu l'occasion, dans d'autres interviews, d'interviewer des personnes qui se disaient, en fait, moi, je ne me rendais même pas compte qu'en tant que personne en situation de handicap, je pouvais faire du sport à haut niveau.
Rien qu'en équipe de France, il y a certains, j'ai pu discuter avec certains athlètes, donc en paracanoë, qui disaient, mais en fait, le club, il n'est pas adapté à mon handicap, donc rien que pour se changer dans les vestiaires, en fait, c'est pas possible. Oui, j'ai pas forcément quelqu'un qui peut mettre mon bateau sur l'eau tous les jours, alors que il faut que je m'entraîne tous les jours. Et c'est vrai qu'en fonction des handicaps, on a besoin plus ou moins d'être accompagné de très près. C'est vrai que moi, bon, je prends mon bateau sur l'épaule et je le pose sur l'eau, même si je suis toute seule. Une personne qui est par exemple en fauteuil ou qui est amputée un petit peu plus haut que moi, déjà transporter le bateau, c'est plus compliqué. Se mettre à l'eau, être sûr que le fauteuil il soit toujours là quand on revient à la fin de la séance, parce qu'il y a un athlète qui s'est fait piquer son fauteuil déjà.
Mais non.
Si, pendant une séance. Et bon, il a été retrouvé au fond de l'eau. Mais oui, les gens ne sont pas toujours très bienveillants.
Wow. Ah ouais.
Mais oui, aujourd'hui, tous les clubs en France ne permettent pas de pratiquer du sport de haut niveau et encore moins de pratiquer du sport quand on est en situation de handicap. C'est dommage.
Est-ce que toi, justement, c'est aussi quelque chose maintenant qui te tient à cœur de visibiliser aussi le paralympisme, on va dire?
Oui. Pour moi, c'est hyper important. Pour moi, n'importe qui devrait pouvoir s'inscrire dans un club sportif sans avoir à se poser de questions. Petite, j'aurais aimé me dire à 8 ans, si j'ai envie de faire du kayak ou n'importe quel autre sport, il suffit juste que j'aille en club et que je donne mon fichier d'inscription comme n'importe quel enfant. Et aujourd'hui encore, beaucoup de personnes se posent des questions et se disent, mais en fait, je suis handicapée, donc je ne peux pas faire de sport. Et c'est pas complètement faux, parce que si l'infrastructure n'est pas adaptée, va dire à une personne en fauteuil, pas de souci, par contre, il faut que tu montes les escaliers avec le fauteuil sur le dos. Tu ne peux pas rentrer par la porte parce qu'elle n'est pas assez large. Et ensuite, tu ne peux pas faire de kayak pendant l'hiver parce que l'eau est trop haute et le ponton n'est pas adapté à ce que tu puisses monter sur le ponton. Donc je pense qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus du paralympisme et du parasport. Mais il faut aussi derrière qu'il y ait une vraie politique de développement qui se mette en place, notamment dans les clubs, parce qu'en fait, c'est le premier endroit où la personne va aller pratiquer un sport. En fait, quand on commence un sport, c'est en club, c'est pas en Pôle France, c'est pas en Pôle Espoir. Et sur les Pôles France, on commence à avoir des adaptations, mais c'est déjà pas assez. En fait, c'est la dernière étape, le Pôle France. La première étape, c'est le club. C'est le premier endroit où on doit pouvoir pratiquer librement sans forcément penser à la compétition.
Est-ce que tu as le sentiment que ça évolue et que ça évolue plus vite depuis qu'on sait que les Jeux olympiques et paralympiques seront à Paris ?
Alors, ça évolue jamais assez vite, à mon goût, mais ça évolue doucement. On sent que les gens prennent conscience que la pratique du sport est vraiment un enjeu environnemental et sociétal majeur, de plus en plus. Mais même pour une personne, je veux dire, valide, qui n'est pas en situation de handicap, c'est déjà compliqué de se dire « bah ouais, faut que je fasse du sport, faut que je sorte chez moi, le soir, après le boulot, après l'école, et c'est pas évident ». Et je vois par exemple les étudiants de ma promo, il y en a beaucoup qui disent bon, « en fait, j'ai pas le temps de faire du sport parce que bah, le soir, je suis fatiguée, je rentre chez moi ». Donc en fait, je me dis, une personne en situation de handicap, non seulement elle a cette problématique de « je rentre chez moi après le boulot, je suis fatiguée », mais en plus, elle se dit bah, « en fait, mon club, il est pas adapté ou autour de, il faut que je fasse 40 km pour trouver un club adapté ». Et je trouve qu'encore aujourd'hui, tout est trop long, quoi. Donc, on se rend compte que l'infrastructure n'est pas adaptée. Donc, on fait appel à la mairie. Puis ensuite, les démarches, évidemment, sont ce qu'elles sont. Mais voilà, il faut peut-être 10, 15 ans avant qu'on construise une rampe d'accès ou agrandir les portes pour que la personne puisse accéder au vestiaire comme n'importe qui. C'est jamais assez rapide.
Et par rapport au traitement médiatique, est-ce que tu vois une différence ? Parce que c'est vrai qu'on sent que le comité olympique et paralympique met l'accent justement à ne pas faire de différence entre les deux et à médiatiser de la même façon les deux. Est-ce que tu le ressens, ça ?
Ouais, je le ressens vraiment parce que quand je suis rentrée en équipe de France, en fait, assez rapidement, on nous a dit, je vous préviens tout de suite, on est un sport paralympique. En plus, le paracanoë, genre déjà le kayak, il n'y a pas grand monde qui connaît, donc le paracanoë, c'est encore pire. Vous attendez pas à avoir de sponsor, vous attendez pas à être médiatisé.
D'accord.
Donc, il y aura de la médiatisation, quoi qu'il arrive à Paris, mais vous attendez pas à avoir de sponsor et ne vous attendez pas surtout à gagner votre vie de votre sport parce que ça n'arrivera pas, quoi. Donc, moi, je me suis jamais attendue à être accompagnée comme je le suis aujourd'hui. Et après Tokyo, en fait, il y a eu une sorte de pump où j'ai commencé à être contactée par des entreprises qui m'ont dit « nous, on est intéressés par ton projet, on aime bien ton profil, on a envie que tu nous représentes ». Et pareil pour les médias, j'ai commencé à être approchée par différents médias. J'ai fait une couverture de l'équipe juste après les Jeux de Tokyo et c'est vrai que c'est quelque chose… J'étais à mille lieues de penser que je puisse faire ça un jour. Et du coup, là, j'en profite et je prends tout ce que j'ai à prendre. Et ce que j'espère surtout, c'est que ça va continuer après les Jeux. Alors, je parle pour moi, mais aussi pour tous les autres athlètes et pour la visibilité du sport para, parce qu'on a besoin d'avoir aussi un développement comme il y a pu avoir, par exemple, après les Jeux de Londres. Et aujourd'hui, ça se ressent chez les athlètes britanniques. C'est l'une des meilleures nations, mais parce qu'il y a une réelle politique de développement et une réelle politique médiatique pendant ces Jeux-là.
Est-ce que tu penses que c'est ta médaille qui a provoqué ça ou c'est vraiment un changement structurel sur la perception qu'on a du paralympisme ?
Alors, je pense que c'est un peu des deux. La médaille a aidé forcément, mais aujourd'hui, je vois des interviews de très jeunes athlètes qui sont arrivés après les Jeux de Tokyo des athlètes qui ont 18-20 ans et qui sont hyper médiatisés et je trouve ça génial parce que c'est hyper aussi important de les mettre en lumière et je pense qu'aussi les enfants, par exemple, qui étaient dans mon cas il y a quelques années, qui sont porteurs d'un handicap, ont besoin de modèles et je pense que les très jeunes, je me considère aussi comme jeune, j'ai 25 ans, mais les très jeunes athlètes qui commencent à rentrer, qui vont faire leurs premiers Jeux à Paris, sont aussi des modèles pour ces enfants-là, parce que faire ses premiers Jeux à Paris, c'est quand même assez exceptionnel. Et on a besoin de modèles. C'est ce que j'ai recherché quand j'étais enfant et que je n'ai pas forcément trouvé. Et je pense que c'est hyper important. Et je pense que ça va servir aussi à ça, d'être médiatisé à ce point. C'est de servir de modèle pour les jeunes enfants en situation de handicap et pas... pour faire évoluer aussi les mentalités et la société dans 10-20 ans.
Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se disent que c'est une minorité de personnes.
Oui.
Sauf qu'en fait, les personnes en situation de handicap, je crois que c'est à peu près 12 millions de personnes en France. C'est juste énorme, en fait.
Ouais.
Donc, ce n'est pas du tout une minorité.
C'est ça.
Donc, ne pas les prendre en compte n'est pas juste.
Exactement.
Et c'est vrai qu'on sent, en tout cas, d'un point de vue extérieur. Après, moi, j'évolue dans les médias, donc c'est peut-être un peu différent. Et peut-être que mon œil est un peu biaisé aussi, forcément. Mais on sent que les sujets, en tout cas, du parasport et du paralympisme sont un peu plus pris à bras-le-corps, quoi.
Ouais, complètement.
Et tant mieux. Et il était temps aussi, j'ai envie de dire.
C'est
parce
clair.
Que, je trouve que l'intérêt et la ferveur qui est mise autour, là, des Jeux paralympiques est plutôt inouïe. Inédite.
Je suis d'accord.
Penses.
Mais c'est vrai. Alors, j'allume pas souvent la télé, mais quand je l'allume et que je tombe sur un programme sportif, c'est vrai que quand il y a une interview... je vois autant d'athlètes paralympiques que d'athlètes olympiques. Et je vois mes potes para, et ils ont autant de médiatisation que certains athlètes valides, même voire plus aussi que certains athlètes valides, parce qu'il y a aussi cette histoire derrière l'aspect sportif qui touche les gens. Et ça fait aussi partie du truc, parce qu'on a envie de se reconnaître dans une histoire, parce qu'on a envie d'avoir des modèles, on a envie de se sentir, d'être inspiré. Et les athlètes, enfin beaucoup d'athlètes paralympiques le font bien, mais je mets un petit clin d'œil aussi aux athlètes olympiques, parce que quand je discute avec eux, en fait aussi ils ont des histoires incroyables dont on penserait pas. J'en ai fait l'expérience aux Étoiles du Sport il y a quelques semaines, où j'ai rencontré beaucoup d'athlètes, notamment des athlètes olympiques, et en discutant avec eux, ils ont des histoires extraordinaires et qui moi aussi m'ont vachement inspirée ensuite dans ma pratique au quotidien et dans ma course aux Jeux Olympiques. Jeux paralympiques.
Le storytelling. C'est vrai que ça aussi, le raconter des histoires, je pense que pendant très longtemps, on était tellement focalisé sur la partie performance que la partie aussi histoire et histoire de vie, on la mettait un peu de côté, et que ça, c'est des choses qui sont en train de changer aussi, qui sont importantes aussi, qui permettent à des athlètes de se faire connaître.
Exactement, parce que pour moi, le storytelling, ça fait partie intégrante de la performance d'un athlète. Et quand je vois, par exemple, certains grands athlètes comme Kevin Roland, comme Justine Dupont, enfin, Kevin Roland, il est quand même... Il a intervenu pendant les Étoiles du Sport je suis restée bouche bée, parce qu'en fait on se dit, mais c'est quelqu'un avec une résilience mais exceptionnelle. Et il n'y a pas que les athlètes paralympiques qui ont une résilience incroyable, il y a aussi les athlètes olympiques. Quand je vois des Kevin Roland, des Justine Dupont qui s'éclatent le genou et puis quelques semaines après qui vont surfer les plus grosses vagues du monde, c'est hyper inspirant, quoi. On se dit, mais en fait qu'on est bien accompagné, on se sent invincible.
Toi, tu sens que le sport, ça a aussi été un moyen d'empowerment pour toi ?
Ouais, complètement. C'est vrai que depuis petite, j'ai mes petites épreuves de vie, et à chaque fois on me dit, mais est-ce que t'en parles ? Est-ce que tu trouves est-ce que tu vois des psys et tout ? Et je dis, mais en fait, j'arrive pas à parler, et moi ça me fait pas du bien de parler. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est de bouger, c'est de me défouler. Souvent on me dit, oh mais t'es hyperactive. Alors, je suis pas hyperactive, je casse les mythes tout de suite, je suis pas du tout hyperactive. Mais par contre, c'est une forme de thérapie, et ça me fait un bien fou, et c'est aussi ce qui me définit. J'ai les cheveux bouclés, j'ai des lunettes, et j'ai eu un besoin viscéral de faire du sport.
On parle de thérapie, c'est toujours les grands mots, le sport c'est la thérapie, tout ça, mais finalement un petit peu,
parce qu'en fait tout de suite après mon amputation, quasiment 10 jours après, j'étais dans une salle de sport à reprendre doucement, à refaire de la musculation, parce que pour moi c'est aussi c'est un enjeu environnemental hyper important. Aujourd'hui, il faut faire du sport, et c'est assez prouvé, quoi. Ça permet de se sentir mieux et dans sa peau et dans sa tête. Et je le remarque quand je fais pas de sport pendant longtemps, je suis pas bien, quoi. Je sens que j'ai besoin de pratiquer. Alors pas forcément du kayak, mais ça va être n'importe quoi. Ça va être de l'escalade, ça va être du surf, enfin n'importe quelle activité qui me fait prendre conscience de mon corps et qui me fait bouger, qui me fait même découvrir de nouveaux sports, parce que j'adore découvrir de nouveaux sports.
Ça, c'est un message que toi tu souhaites. Alors, tu es encore jeune, tu n'as pas du tout fini ta carrière, mais justement de faire, alors que ce soit aux personnes valides ou aux personnes handicapées, sans distinction, mais de montrer à quel point le sport est important, à quel point il peut permettre de se construire. C'est des choses que tu veux faire passer, ça, déjà ?
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand je parle de sport à certains amis qui ne font pas de sport, j'ai vraiment l'impression de dire un gros mot, quoi. C'est, oh non, mais le sport, c'est horrible, ça fait transpirer, ça fait mal et tout. Puis, aller à la salle, il y a du monde, les gens me regardent, je suis pas bien dans mon corps et tout. Le sport, ça fait peur, parce que, on a des courbatures. Mais le sport, c'est pas que de la performance, c'est pas que du dépassement de soi, c'est aussi de la passion. Le kayak, on peut pratiquer du kayak quand on a 70 ans, quand on a 80 ans, mais juste parce qu'en fait, on est dans un bateau, on est porté, on est sur l'eau, on découvre des rivières, on découvre des sites, rien qu'en France, absolument exceptionnels. Puis ça nous fait rencontrer aussi des personnes exceptionnelles, et rien que sur cet aspect humain, c'est hyper intéressant, parce que moi j'ai fait des super rencontres grâce au sport, et je sais que je vais continuer d'en faire aussi grâce au sport.
Ce projet paralympique Paris 2024, comment tu l'abordes? Forcément, je te suis obligée de poser la question, nous sommes en 2024.
Ouais. Alors, Évidemment, j'ai envie d'aller performer, j'ai envie de rendre fier tout le monde, me rendre fier en premier, parce que je pense que c'est l'objectif principal. Mais il y a quand même cette pression qui commence à s'installer, parce que on en parle tous les jours, quoi. Et même quand moi j'en parle pas, j'en entends parler dans les transports, j'en entends parler à la radio, j'en entends parler partout. Et je pense qu'il faut aussi vachement se préserver par rapport à ça, pour pas arriver le jour des Jeux avec la tête grosse comme une pastèque, prête à exploser. Parce qu'en fait, l'équilibre il est hyper fin. Il faut surtout pas basculer quelques semaines, quelques jours avant les Jeux, quoi. Donc moi j'essaie de me préserver énormément, donc d'en parler, évidemment, parce que c'est important, parce que ça fait partie de moi, parce que c'est mon projet, mais aussi voilà, de me garder des moments pour moi, de faire autre chose, j'aime beaucoup le sport, donc je suis pas que du kayak, j'essaie de faire un peu d'escalade, de faire un peu de surf aussi quand je peux, et c'est ce qui me permet aussi de m'échapper et d'avoir une soupape, parce que pour moi c'est hyper important d'avoir une soupape pour pouvoir garder cet équilibre entre j'ai un objectif qui est l'objectif le plus important de ma vie sportive, et d'un autre côté faut pas non plus se dire si je rate cet objectif,
tout s'arrête
quoi. Parce que je me dis ça va être l'objectif le plus important de ma vie sportive, mais si jamais je devais la rater, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pas mourir. Je vais pas mourir, du coup faut que je profite de tout ce que je fais, et là en fait ce qui est en train de se passer cette année, c'est hyper unique. Donc il est hyper important que je profite aussi de chaque instant et de chaque entraînement et de chaque interview, de chaque instant avec les sponsors, de chaque moment de pause aussi, parce qu'en fait, je vais pas le vivre deux fois, et j'ai aussi envie de profiter à 100%. Et en fait, les Jeux, ils ont déjà commencé, parce qu'en fait, ils ont commencé dès la cérémonie de clôture à Tokyo. Et j'ai envie de profiter de chaque instant, parce que j'ai envie d'en parler aussi avec le sourire après les Jeux paralympiques.
Est-ce que, tu vois, c'est intéressant, parce qu'on disait que le sport, c'était un moyen d'empowerment, de se construire. Mais est-ce que tu trouves pas aussi que des fois, la frontière, elle est très fine entre ça me construit, mais en fait, après, au bout d'un moment, il y a tellement de pression. Typiquement, un cas de figure, les Jeux en France, avec les athlètes français, dont on attend des résultats nombreux. On peut très vite basculer justement dans ça me construit plus, c'est plutôt en train de me déconstruire, quoi.
La bascule, elle est hyper fine, et je pense qu'il faut en être conscient. C'est pour ça qu'il faut être hyper entouré. Et j'ai eu en fait le cas après les championnats du monde l'été dernier où je fais deuxième, encore une fois. Et l'objectif cette année, c'était de gagner. Mais en fait, je l'ai réussi cet objectif, parce que j'ai gagné en Coupe du Monde. J'ai battu l'anglaise qui m'embêtait depuis quelques années.
Et en fait, la fameuse
Laura Sugar, exactement, qui est très très forte et qui était super contente de me voir gagner. Et moi, je suis toujours contente de l'avoir gagnée aussi, parce qu'avant d'être, une concurrente, c'est aussi une amie. En fait, j'arrive sur les championnats du monde épuisée. Je fais deuxième. Et je me dis, j'ai raté ma course, j'ai raté mes championnats du monde. Et vraiment, j'avais des paroles hyper violentes envers moi-même. Et puis finalement, en prenant de la distance, je me suis dit, j'ai rien raté du tout, quoi. J'ai aucun regret, je me suis entraînée comme une dingue toute l'année. J'ai pas menti sur mes championnats du monde. J'ai donné tout ce que j'avais, j'étais à 100%. Sauf que c'était le 100% du jour. Si ça se trouve, si ça avait été une semaine avant, j'aurais fait championne du monde. Si ça se trouve, si ça avait été une semaine après, j'aurais fait 10e. On sait pas. Mais voilà, ce jour-là, j'ai fait 2e. Donc je peux être que fière de moi. Mais c'est vrai que sur le coup, je me suis flagellée. Je me suis dit, mais plus jamais j'ai envie de vivre ça. Et c'est pour ça que j'ai envie de tout vivre à 100% pour n'avoir aucun regret le jour des Jeux. Et le jour des Jeux, il se passera ce qui se passera. Mais je pourrais pas être déçue, quoi.
Cette frustration de la seconde place sur la majeure partie des compétitions internationales que t'as fait ces dernières années, c'est que t'as fini toujours sur les podiums, mais souvent deuxième, quelquefois troisième, mais la deuxième place. On a envie que ça change.
Ouais, mais on a très envie. Mais c'est vrai que le niveau international monte aussi d'année en année. Et c'est vrai que cet été, je me suis dit mais en fait, je suis nulle, quoi. Je suis encore deuxième et tout. Puis je me dis Nila, t'imagines, t'es nulle, mais derrière, il y a quand même l'Allemande qui est très forte aussi. Donc c'est déjà génial que tu l'aies battue. Puis derrière, il y a plein de filles aussi qui rêveraient d'être en finale, quoi, ou d'être dans le top 3. Et donc je peux pas me dire que je suis nulle. Donc j'ai progressé par rapport à mes championnats du monde. Je continue de progresser et j'espère que je vais continuer sur cette lancée-là. Et finalement, d'avoir fait deuxième cette année, ça m'a montré aussi que j'avais progressé, parce qu'en fait, si j'étais restée au même niveau que l'année dernière, je serais cinquième, peut-être sixième. Puis en plus, faut pas oublier que cette année, j'ai gagné ma première Coupe du Monde et j'ai battu l'anglaise pour la première fois. Et c'est pas rien. Ça veut dire que je suis capable, que je peux le faire et que, je vais le refaire.
Tu sens que ça a été un déclic, ça?
Ça a été un déclic. Ça a été un déclic parce qu'en fait, c'était l'une des courses les plus stressantes de ma vie, alors que c'était une Coupe du Monde, donc il y avait pas d'enjeu particulier. Mais je me suis dit, là, je vais la battre. Et je sais pas, je l'ai senti, c'était viscéral. Je me suis dit, là, je vais la battre.
Une intuition.
C'est ça, une intuition. Et en fait, j'arrive sur les qualifs, on n'était pas sur la même qualif, il y avait deux qualifs. Et je fais le meilleur temps de toutes les qualifs. Et je me dis, ah ouais, non, mais là, elle doit être en panique, quoi. Elle, qui était tout le temps première et tout. Là, Nelia Barbosa, 50 kilos, 1m59, qui débarque et qui bat Laura Sugar, quoi. Et donc, je pense qu'elle a eu peur et qu'elle s'est dit, mais en fait, ça y est, genre, je me suis fait détrôner, quoi. Et du coup, je suis arrivée en finale et je me suis dit, mais j'ai fait ça en qualif, hors de question que je lui laisse la place en finale, quoi. Et donc après, bah, sur la finale, pareil, c'est une course que j'ai vraiment adoré faire parce que, j'avais l'impression de voler sur l'eau et j'ai rarement eu ce genre de sensation. Et j'ai trop envie de les retrouver, ces sensations. Mais il ne faut pas se dire ça parce qu'on a toujours envie de reproduire une course et ça ne se reproduit pas, une course, ça ne se vit qu'une fois. Mais ça m'a donné beaucoup, beaucoup de motivation. Et après, j'arrivais avec l'entraînement, mais j'avais envie de tout casser, quoi. C'était trop bien.
Quand on t'écoute, on a le sentiment que tu l'as gagné dans la tête, en fait, avant la course.
Ouais. En fait, faut jamais arriver sur une course en se disant je vais gagner. Mais j'étais tellement bien que j'avais juste envie de jouer. C'est la première fois que j'avais envie de jouer vraiment. Et je pense qu'il faut que je me remémore ça plus souvent parce qu'en fait, souvent on arrive sur les compètes en disant faut que j'éclate tout le monde, faut que je sois le plus fort, faut pas que je sois mauvais techniquement. Et on pense à trop de choses. Alors qu'en fait, si on se dit juste je vais jouer, bah ça nous libère d'énormément de choses. On pense à rien. Et comme dit mon entraîneur, en fait, un fauve quand il court et quand il va attraper sa proie, il pense pas à comment il est en train de courir. Il y va, en fait, c'est instinctif. Et donc moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire mes courses à l'instinct parce que j'aurais travaillé toute l'année pour justement arriver le jour J sans penser à rien.
Et tu penses à l'après Paris, après jeu?
Ouais, j'y pense souvent. Et en fait j'arrive pas à m'imaginer. Déjà, j'ai envie de prendre des vacances. J'ai envie de couper, prendre des vacances, penser à rien, à vraiment penser à rien, faire du surf peut-être, parce que j'aime beaucoup le surf. Mais je pensais après Paris et je me dis, mais comment ça va être? Est-ce qu'on va continuer d'être accompagné comme on l'est aujourd'hui? Est-ce que les gens vont continuer de s'intéresser et au sport et aux Jeux Olympiques et Paralympiques? Et ça, bah, je le souhaite de tout mon cœur. J'ai toujours un doute. Forcément, les jeux à la maison, ça attise beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité. Mais bon, une fois qu'après, ils sont sur un autre continent et qu'il faut traverser l'Atlantique, on sera passé à autre chose. Les Jeux de Paris sont finis, on reprend sa vie quotidienne. Et puis, les athlètes, pas on s'en fiche, mais on s'y est intéressé pendant 4 ans et aujourd'hui, on passe à autre chose, quoi.
Ouais.
Et donc, j'espère réellement que justement les Jeux Olympiques et Paralympiques vont vraiment pumper cet esprit sportif que certaines personnes ont et que
la société française
n'a encore pas assez, ouais, c'est ça.
On en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a des initiatives qui sont en train de se faire, genre, par exemple avec Club Inclusif, par rapport au club dont on parlait pour former des clubs justement à accueillir des personnes en situation de handicap. Ça, c'est des choses qui sont amenées à durer, hein, ça ne va pas s'arrêter. Ouais. Justement, c'est impulsé par les Jeux en France, mais c'est amené à durer et justement aussi à derrière se généraliser dans toute la France et dans tous les clubs.
Je pense que les Jeux paralympiques déjà, rien que pour les personnes en situation de handicap, vont être hyper stimulants et vont être un moteur réellement pour se dire ces personnes-là elles sont hyper inspirantes. On peut faire du sport quand on est en situation de handicap et notamment avec ce développement du dispositif La Relève. Où je l'espère, on va voir beaucoup d'athlètes de la relève médaillés ou en finale, où on va se dire, mais en fait, on peut commencer un sport relativement tard en ayant déjà un petit passif sportif et faire de très grandes choses, même en situation de handicap, et qu'après, ça va perdurer et à Los Angeles, et à Brisbane, et encore après sur les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques.
On espère.
Ouais, on croise les doigts.
Toi, dans un monde idéal, qu'est-ce que tu te souhaiterais? Et qu'est-ce que tu souhaites pour le sport français et plus spécifiquement le paralympisme,
parasport? Alors, ce que je me souhaiterais à moi, c'est de pouvoir pratiquer mon sport sans me poser de questions, de continuer d'être passionnée surtout, parce que c'est hyper important et j'ai surtout pas envie d'oublier, j'ai pas envie de passer à côté. Donc, de pratiquer de l'eau vive, pratiquer de la course en ligne et pouvoir aussi partager aussi cette passion que j'ai auprès des jeunes, auprès des moins jeunes, auprès de toutes ces personnes qui ont un peu de réticence à faire du sport ou à toutes ces personnes qui se disent maintenant j'ai 18 ans, je suis un grand ou je suis une grande, j'ai passé mon bac, donc c'est fini le sport, c'est fini de s'amuser, je suis plus un enfant. Le sport, c'est un jeu d'enfant et on est tous des enfants. D'ailleurs, les plus grands sportifs, ils se mettent sur une ligne de départ, ils font la course avec les copains à côté et en fait, l'enjeu n'est pas le même, mais c'est aussi ce qu'on fait dans la cour de récré. Et je pense que c'est aussi important de garder cet esprit enfantin qu'on a tous dans un petit coin de la tête et qui permet aussi d'être plus léger, d'être en bonne santé mentale en tout cas.
Et pour le milieu du paralympisme et du parasport?
Bah, j'espère que ça va continuer de se développer. On a vu qu'il y avait une bonne lancée pour les Jeux de Paris. J'espère qu'on va continuer le dispositif La Relève, bien sûr, mais j'espère aussi que ça va permettre de découvrir des talents, mais pas forcément que des talents, aussi des personnes qui sont en situation de handicap, qui sont rentrées dans le dispositif au départ peut-être pour faire du haut niveau et qui finalement se sont découvert une passion et qui vont faire de cette passion en fait juste un sport loisir pratiqué parce que ça fait du bien. Mais pas forcément faire du haut niveau, parce que le sport, c'est pas juste faire du haut niveau, c'est aussi rencontrer des personnes, c'est aussi juste aller au club une fois par semaine, c'est déjà super.
Et le haut niveau, c'est vrai que c'est une toute petite partie.
C'est exactement ça.
Une toute petite partie.
Tout petit point.
Mais que c'est pas parce qu'on ne devient pas sportif de haut niveau qu'il ne faut pas faire de sport, et bien au contraire.
Exactement.
Bien au contraire. Merci beaucoup, Nélia.
Ben, merci à toi.
Je te remercie pour ce moment, je te remercie pour ton discours, ces apprentissages aussi. Et en tout cas, je te souhaite beaucoup de réussite pour cette année olympique et paralympique.
Merci beaucoup.
Et puis, les résultats... Bon, je vais rien dire de particulier, mais en tout cas que tu souhaites. Et en
ça
tout
marche.
Cas d'être heureuse et fière de ce que tu as fait.
Voilà. Mais merci beaucoup. Merci.
Je te dis à très bientôt. Et puis, je ne peux, comme d'habitude, que vous encourager à suivre Nélia sur les réseaux, ou en tout cas de suivre ses résultats cette année et surtout de la regarder lors des Jeux paralympiques qui auront lieu, donne-nous la date.
Alors, je vais te dire la date de la finale parce que
bien sûr.
C'est le dernier jour des Jeux Paralympiques, donc le 8 septembre.
Voilà, en plus, 8 septembre, tous devant vos télévisions ou même encore mieux, allez la voir en live.
Directement à Vers-sur-Marne.
Exactement. Merci beaucoup Nélia, à bientôt.
Merci, à
Salut.
Bientôt.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.